Bonjour à tous. Alors que le mondial de l'automobile ferme ses portes ce week-end, je vous propose une enquête sur les super profits des sociétés autoroutières. On a appris récemment qu'elles allaient encore augmenter les péages pour financer des travaux. On va donc se demander si nous ne sommes pas un peu les dindons de la farce. Et c'est ce qu'on va voir avec vous, Maxime Fayolle. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons l'avocat Jérémy Assous. Bonjour.
Bonjour.
5000 personnes reprochent à la Commission européenne d'avoir délivré un permis de polluer en quelque sorte en relevant les seuils de pollution pour les constructeurs. Vous nous direz donc où en sont les poursuites que vous avez engagées.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Les péages des autoroutes vont augmenter. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, annonce une hausse entre 0,3 et 0,4% par an.
Je trouve que c'est abusé parce que déjà qu'ils sont largement bénéficiaires, c'est l'État qui a construit les autoroutes et que maintenant c'est nous qui payons derrière encore. Donc c'est peut-être pas normal quand même qu'il y ait autant de profits.
Entretenir les routes, ça coûte cher, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter.
C'est toujours la course au profit permanente sans penser aux usagers.
Oui, ce qu'on vient d'entendre, c'était fin septembre. L'État veut lancer un nouveau plan de travaux autoroutiers. Et qui va le financer? Eh bien, les automobilistes lorsqu'ils passeront au péage. Nous avons donc voulu comprendre pourquoi nous allons trinquer une nouvelle fois. Alors, pour être très concret, Maxime Fayolle, et pour commencer, expliquez-nous, lorsqu'on passe au péage, où va précisément notre argent?
Eh bien, on va imaginer un trajet aller-retour entre Paris et Marseille. Vous en aurez pour environ 100 euros de péage. Et bien, sur ces 100 euros, près de 80 passent dans les frais, les charges ou encore les salaires. Mais les 20 euros restent rentre directement dans les poches des actionnaires des sociétés d'autoroutes.
Oui, j'imagine que tout ça mis bout à bout, ça doit faire un sacré pactole.
Et oui, d'autant plus que cette somme ne fait que grossir d'année en année, nous explique Laurent Ecquet. C'est l'un des fondateurs de 40 millions d'automobilistes. Il est aujourd'hui à la tête du think tank Automobilité et Avenir. Pour lui, gérer une autoroute, c'est une bonne affaire.
C'est forcément rentable, c'est 1,5 milliard de rente autoroutière, autrement dit de bénéfices par an, pour un chiffre d'affaires de 8 milliards. Chaque année, la rente autoroutière est quand même très très importante et ne va cesser de croître parce qu'on va de toute façon augmenter encore le trafic sur les autoroutes. Nous allons encore augmenter les prix et les péages. Tout cela contribue donc à une augmentation des bénéfices et ces bénéfices vont directement dans les poches des sociétés privées.
Oui, parce que qui dit bénéfice dit dividende. Et en France, les sociétés d'autoroutes en versent 1,5 milliard chaque année à leurs actionnaires.
Oui, et il n'y a qu'à voir ce qu'en dit l'autorité de la concurrence. En 2014, dans un avis, elle analyse la rentabilité de ces sociétés autoroutières. Et l'autorité fait un constat sans appel. Écoutez cet extrait lu par Élodie Guéguin.
On observe très clairement que la politique de distribution des dividendes a radicalement changé après la privatisation. Alors que les sociétés distribuaient en moyenne 56% de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2003 et 2005, cette part atteint 136% en moyenne les 8 années suivantes. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes affichent toute une rentabilité nette exceptionnelle, comprise entre 20 et 24%, nourrie par l'augmentation continue du tarif des péages. Cette rentabilité n'apparaît justifiée ni par leurs coûts, ni par les risques auxquels elles sont exposées. Elle est donc assimilable à une rente.
Oui, une rente. Mais alors, si cette activité est si rentable, Maxime Fayolle, pourquoi est-ce qu'en 2006, on les a privatisées, ces autoroutes?
En fait, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, l'État vend quelques-unes de ses parts en 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais ce n'est que l'année suivante, en 2002, que se pose la question de la privatisation. Jean-Pierre Raffarin est alors Premier ministre et il est sollicité par le ministère des Finances, Bercy, qui cherche de l'argent et vite pour réduire la dette du pays.
Le ministre de l'époque, Gilles de Robien, est venu m'interroger à Matignon pour savoir si j'étais favorable à la privatisation des autoroutes. Nous avons fait un conseil restreint sur le sujet et nous avons arbitré ensemble qu'on ne vendait pas la part de l'État des sociétés d'autoroutes, qu'on ne privatisait pas les autoroutes. Pourquoi ? Parce qu'on voulait garder le revenu annuel de ce capital pour financer les travaux routiers dont on avait besoin.
Donc Jean-Pierre Raffarin refuse de privatiser les autoroutes, on vient de l'entendre. Sauf qu'en 2005, il est remplacé par un autre Premier ministre. Et là, les choses vont se passer très différemment.
Et oui, c'est Dominique de Villepin qui entre à Matignon. Et là, changement radical dans le discours du nouveau Premier ministre qui va céder aux sirènes de Bercy, comme le raconte Jean-Pierre Raffard.
Quand j'ai quitté Matignon, Bercy est arrivé pour prendre sa revanche et pour vendre au Premier ministre de l'époque cette idée sublime qui était de privatiser les autoroutes. Bercy arrive à convaincre Dominique de Villepin qu'il sera le Premier ministre qui va faire baisser la dette. Et donc, si vous regardez bien, en effet, les chiffres, vous vous apercevrez qu'à cette période-là, on a une année où la dette fléchit légèrement.
La dette fléchit légèrement. C'est donc pour ça, pour dire qu'il était le premier à faire baisser la dette, que Dominique de Villepin vend les autoroutes ?
Oui, et j'ai essayé de le rencontrer pour en discuter avec lui, mais il a refusé de répondre à mes questions. J'ai donc retrouvé son explication dans les archives de France Inter. Écoutez, il s'exprime face à Patrick Cohen. L'ancien Premier ministre est convaincu d'avoir réalisé une bonne opération en vendant ses sociétés aux géants Vinci, Eiffage et Abertis.
Il y a un rapport parlementaire en 2005, au moment où nous avons décidé d'engager ce processus, qui estimait le montant à payer à un peu plus de 11 milliards, entre 11 milliards et 12 milliards. Et à combien avons-nous finalement cédé ? À 14 milliards 8. Donc c'était une bonne affaire.
Une bonne affaire. Non seulement, dit Dominique de Villepin, on fait baisser la dette, mais on encaisse plus que prévu dans la caisse de l'État. Hein, c'est ce qu'on entend. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça paraît frapper au coin du bon sens. Sauf que dans les faits, Maxime Fayolle, en fait, ça n'était pas une bonne affaire.
Et non, parce que cette estimation dont parle Dominique de Villepin, c'est 11 milliards, 12 milliards, écrit dans un rapport parlementaire de 2005. C'est une estimation un peu basse, selon la Cour des comptes. En 2009, elle estime que le vrai prix de ces sociétés est plus proche des 25 milliards d'euros.
Oui, du coup, on aurait vendu en fait 10 milliards en dessous du prix estimé, hein, si j'entends bien par la Cour des comptes. Donc, pour parler clairement, on se serait fait avoir. Hein. Mais il n'y a pas que ça. En fait, l'État a vendu aussi au pire moment pour lui, puisque c'était l'époque où les autoroutes commençaient tout juste à lui rapporter de l'argent.
Et oui, car les autoroutes sont déjà construites depuis 25 à 30 ans. Et en 2006, c'est pile le moment où les dividendes commencent à tomber. Le choix de vendre est donc incompréhensible pour Laurent Equet du think tank Automobilité et Avenir.
L'État, qui était actionnaire de ces sociétés, a souhaité se désengager pour récupérer un petit peu d'argent qu'il a pu remettre pour colmater le déficit, mais c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Si l'État était resté actionnaire majoritaire, il aurait à ce moment-là commencé à toucher les dividendes que touchent aujourd'hui les sociétés privées et qui lui aurait permis peut-être de financer justement ces infrastructures routières. Donc ça a été privatisé à un moment intéressant pour les sociétés privées et certainement pas à un moment intéressant pour l'État.
Oui, donc les grands groupes récupèrent un réseau qui vient en fait tout juste de devenir rentable. Ils mettent la main en quelque sorte sur une poule aux œufs d'or. Seulement, ils ne se contentent pas de la cajoler, cette poule, Maxime Fayolle. Ils vont ensuite tout faire pour la rendre encore plus rentable.
Et
la pondre encore plus d'œufs, quoi.
Et oui, et la première opération qu'ils vont enclencher, c'est dégraisser le mammouth. Et vous le constatez vous-même quand vous passez au péage, il y a de moins en moins de salariés dans les cabines. Les sociétés vont décider d'automatiser, de booster le télépéage. Résultat, c'est la dégringolade dans les effectifs depuis 10 ans, explique Frédéric Dumouchel, c'est le secrétaire général du syndicat Sud Autoroute.
On va vers une automatisation massive et à outrance, en fait, pour supprimer de l'emploi, aussi bien sur la filière péage que sur la filière des agents routiers. Donc ça touche le cœur même de l'emploi des sociétés d'autoroute. On était à peu près 20 000 avant la privatisation, on est maintenant à peu près 14 000, donc on a perdu 6 000 salariés, ce qui représente environ 30% de la masse salariale. Une entreprise qui va mal et qui licencie, on peut tout à fait le comprendre, mais des grands groupes comme ceux-là qui licencient, c'est incompréhensible.
Bon, on dégraisse pour faire baisser la masse salariale, on l'a compris, mais il y a d'autres moyens de gagner encore plus d'argent.
Et oui, en fait, il faut comprendre que ces grands groupes, ils doivent investir pour entretenir le réseau autoroutier. Il y a donc des chantiers à réaliser. Et à qui font-ils appel pour effectuer ces travaux ? Eh bien, principalement à leur filiale.
Et ça, c'est ce qu'a mis en évidence un homme qu'on connaît par ailleurs, qui est assez procédurier, qui s'appelle Raymond Avrier.
Oui, c'est un ancien élu écologiste de Grenoble, membre de l'association Anticor. Raymond Avrier est aussi connu pour avoir lancé l'affaire des sondages de l'Élysée. Mais il s'intéresse aussi aux contrats de ces sociétés d'autoroutes et il a donc demandé à l'État la liste des travaux passés en 2013 et 2014. Et voilà ce qu'il découvre sur le fonctionnement de ces sociétés.
Elles travaillent sur tous les gros travaux avec leurs filiales, parfois de manière croisée. C'est-à-dire, quand ce sont des autoroutes, sociétés autoroutières concédées à Vinci, les marchés sont passés avec des filiales de Vinci, voire avec des filiales d'Eiffage. Et quand on est avec une société autoroutière Eiffage, les marchés sont passés d'une part avec des filiales d'Eiffage et d'autre part avec des filiales de Vinci.
Oui, si j'entends bien, on se ferait travailler entre grands groupes, on se renvoie à l'ascenseur en quelque sorte. Et l'autorité de la concurrence, qu'est-ce qu'elle en dit, elle ?
Eh bien, elle fait le même constat dans son avis de 2014. Elle l'écrit très clairement, le nombre de travaux donnés à des filiales a doublé depuis la privatisation. Et tout ça dans des conditions discutables, estime l'autorité. Écoutez un extrait de cet avis lu par Philippe Bardone.
Les modalités utilisées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour attribuer leur marché, bien qu'elles respectent formellement les règles applicables, ne leur permettent pas de sélectionner l'offre la mieux disante, notamment parce qu'elles utilisent des formules de notation contestables, dont la légalité est par ailleurs douteuse.
Bon, alors c'est un peu alambiqué tout ça, mais si on lit entre les lignes, on peut quand même en déduire que tout en veillant à rester dans les clous, ces sociétés s'arrangeraient pour attribuer les marchés à leurs amis, c'est ça hein, qu'on entend. Que répondent à ça, Maxime Fayolle, les sociétés d'autoroutes ?
Eh bien, elles disent que ce rapport de l'autorité de la concurrence est totalement à charge, truffé d'erreurs, bref, un rapport qui jette le doute sur leur honnêteté. J'ai rencontré Jean Mesqui, c'est le président de l'ASFA, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Lui se dit indigné par les conclusions de cet avis de l'autorité de la concurrence.
Quelque part, on nous a traités de voleurs, alors que nous ne sommes pas des voleurs. Nous avons des contrats et nous fonctionnons en toute transparence, totale transparence. L'autorité de la concurrence a mis en avant, ils attribuent les marchés qu'à leurs entreprises. Alors que l'attribution des marchés aux entreprises, elle répond tout simplement à la part de marché que chacun a à l'intérieur de la France. Et encore, ça ne se vérifie que sur la longue durée, on ne peut pas le vérifier sur une année.
Oui, en clair, c'est normal qu'on donne du boulot à nos filiales ou à celles de nos concurrents, puisqu'il n'y aurait qu'elles sur le marché. Bon, maintenant, il y a autre chose, Maxime Fayolle. Pour rendre ces sociétés toujours plus rentables, il y a un troisième levier. Et ça s'appelle augmenter les tarifs des péages.
Oui, alors sur la question des péages, il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque année, ils augmentent ça. C'est un droit pour les sociétés d'autoroutes. Une augmentation minimale fixée à 70% du taux de l'inflation. C'est une hausse qui est censée compenser les frais liés à l'exploitation des autoroutes et ça représente environ quelques centimes à la barrière de péage.
Oui, quelques centimes, sauf qu'en vérité, cette augmentation, elle est toujours supérieure.
Et oui, parce que l'État autorise ces sociétés à compenser des petits investissements. Par exemple, la construction d'une troisième voie ou d'un échangeur supplémentaire. Et comment ? Eh bien, en augmentant les péages. Mais le résultat, à la barrière, eh bien, ce n'est plus quelques centimes de plus, mais quelques euros de plus que vous devez payer chaque année. Le bilan, c'est qu'en 10 ans, la hausse des péages atteint presque les 20%.
Bon, mais Maxime, pourquoi est-ce que l'État accepte ça ?
Eh bien, parce qu'il n'a pas le choix. Le réseau autoroutier français est l'un des meilleurs du monde, l'un des plus sûrs aussi. Il faut donc entretenir ce réseau pour conserver une telle qualité. Le problème, c'est que l'État n'a plus un sou dans les caisses. Pour le faire, il est pris à la gorge, explique le député PS de l'Indre, Jean-Paul Chanteguet. Il a rédigé un rapport parlementaire en 2014 sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières.
L'État est incapable aujourd'hui de financer des travaux qui sont nécessaires. Par exemple, des travaux qui concernent des murs anti-bruit ou des travaux qui concernent des échangeurs. L'État étant incapable de financer, elle se tourne vers les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui accepte tout de suite de financer en contrepartie d'une hausse des péages. Je dirais, la boucle est bouclée.
Oui, la boucle est bouclée, donc en clair, c'est l'usager qui paye pour les investissements. Mais comment est-ce que les sociétés d'autoroutes qui font, on l'a vu, hein, de très gros profits, justifient-elles le fait de ne pas mettre au moins un petit peu la main au portefeuille ?
Une justification très simple, ces sociétés ne sont pas des mécènes. Leur objectif est clair, explique Jean Mesqui de l'Association française des sociétés d'autoroutes.
Les sociétés sont des sociétés privées, comme toute entreprise privée, leur objectif c'est de gagner de l'argent parce que si on ne gagne pas d'argent, on meurt. Toute entreprise privée, encore une fois, s'organise de telle manière qu'elle essaye de faire valoir ses intérêts auprès de ses interlocuteurs. Voilà, c'est dans les gènes d'une entreprise. Donc je pense que nous sommes efficaces, comme d'autres entreprises, pour le faire.
On est efficace pour faire valoir nos intérêts, c'est dans notre ADN, bon ben voilà, qui a en tout cas le mérite de la clarté.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors Maxime, on a vu que ces sociétés font de gros profits, que l'État se défausse sur elles pour faire financer des grands travaux par finalement des hausses de tarifs au péage. Mais ça ne choque personne, finalement, ce système ?
Eh bien si, il y a même un automobiliste très célèbre qui est choqué et qui s'est manifesté sur le sujet. Je veux parler du président de la République, François Hollande. Il faut savoir qu'en avril 2012, alors qu'il n'est encore que candidat à l'élection présidentielle, il écrit en personne au syndicat Sud Autoroute. Dans cette lettre, il dénonce alors les surprofits de ces sociétés. Écoutez un extrait de ce courrier lu par Benoît Colomba.
Sur la période 2005-2010, le ticket de péage affiche d'ores et déjà une progression de 11,5%, presque deux fois supérieure à l'inflation. En conséquence, les recettes des concessionnaires ne cessent d'augmenter. Depuis leur privatisation, les trois sociétés d'autoroutes ont ainsi engrangé plus de 5 milliards de profits. La question de l'évolution des péages devra donc être rapidement abordée avec l'ensemble des parties prenantes.
Alors ça, c'est donc ce que dit François Hollande pendant la campagne de 2012. La suite montrera que ce n'était qu'une promesse, puisque la question des péages n'a pas été rapidement, comme il le promettait, abordée. Bon, cela dit, il n'est pas le seul à s'être manifesté sur ce dossier.
Non, il y a deux ans, en 2014, 152 députés socialistes vont demander à Manuel Valls de réexaminer les contrats de concession. Mais ils ont choisi le pire des moments pour le faire, car l'État est justement en train de négocier un gros contrat avec ces sociétés. Le gouvernement veut qu'elles financent plus de 3 milliards d'euros d'investissement sur le réseau. Alors pour tenter de calmer les choses, Manuel Valls met en place un groupe de travail. À l'intérieur, on retrouve le député PS Jean-Paul Chanteguet. Mais après quelques semaines, il claque la porte et il nous explique pourquoi.
J'ai vite compris, si vous voulez, que ce groupe de travail était là pour cautionner l'accord que l'État et les sociétés d'autoroutes étaient sur le point d'obtenir. On a bien compris que entre les représentants des sociétés concessionnaires d'autoroutes et la haute administration, il y avait de nombreuses convergences. Je pense que ces grands groupes sont particulièrement puissants et qu'ils disposent d'un réseau qu'ils ont, en ces circonstances, actionné, réseau qui a fait preuve de son efficacité.
Qui a fait preuve de son efficacité, c'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que le plan de relance que voulait l'État sera finalement validé et signé comme prévu avec les sociétés d'autoroutes en avril 2015. Elles investiront bien un peu plus de 3 milliards d'euros sur le réseau, mais en contrepartie, ces sociétés touchent le jackpot car les durées des concessions autoroutières sont prolongées entre 2 et 4 ans. Elles vont donc se poursuivre jusqu'en 2036 au plus tard, ce qui représente encore 30 ans de bénéfices pour ces sociétés.
Ouais, donc une fois de plus, l'État est content, les sociétés s'y retrouvent. Mais ce qu'il faut expliquer aussi, Maxime, et ce qui peut sembler d'ailleurs assez hallucinant, c'est que cet accord dont vous nous parlez, qui porte donc sur des milliards de travaux, eh bien on en a bien révélé les grandes lignes, mais il est tenu secret.
Et oui, et c'est assez paradoxal finalement, car le gouvernement se vante d'avoir enfin trouvé un accord avec les sociétés autoroutières en avril 2015. On met en place une grande opération de communication, conférence de presse avec les ministres de l'économie, de l'écologie, Emmanuel Macron, Ségolène Royal. Oui, mais voilà, le protocole signé par l'État avec les sociétés, il est introuvable, impossible d'en connaître le contenu précis. Et lorsqu'il découvre ça, Raymond Avrier, l'ancien élu écologiste de Grenoble, est stupéfait.
Je m'aperçois au bout de quelques jours que personne n'a demandé l'accord. On annonce publiquement un accord, mais personne ne demande l'accord. Donc, avec les collègues, on décide que je vais porter le dossier. Et comme M. Macron refuse de me communiquer ses documents, je suis obligé de saisir le tribunal administratif de Paris en annulation du refus du ministre de l'économie de me communiquer les documents qu'il détient et qui sont des documents publics.
Et alors, pour finir, Maxime Fayol, qu'est-ce que le tribunal a décidé ?
Eh bien, le tribunal donne raison à Raymond Avrier. En juillet dernier, le document devait donc être rendu public. Mais comme le ministère de l'économie a décidé de se pourvoir en cassation, l'affaire n'est toujours pas tranchée.
Bon, mais Maxime, qu'est-ce qui peut bien y avoir dans ce document pour que le ministère de l'économie tienne absolument à le garder secret ?
Eh bien, ça, c'est toute la question. Les conseillers d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie, expliquent qu'il s'agit d'un simple document de travail, un document qui serait couvert par le secret des affaires. Mais tant que le document reste secret, Laurent Eyquet, le président du groupe de réflexion Automobilité et Avenir, se pose beaucoup de questions.
Qu'y a-t-il dans ce contrat ? Qu'est-ce qui a été promis par l'État aux sociétés concessionnaires ? Ça, nous n'en savons rien. Est-ce que certaines clauses du contrat que nous connaissons ont été supprimés? Est-ce que l'État s'est engagé à confier aux sociétés autoroutières des allongements de durée de concession, ce qu'on pourrait appeler la concession perpétuelle? Mais ce sont là des suppositions parce qu'encore une fois, nous n'avons nullement connaissance du contenu.
Mystère donc. Mais Maxime, le secret des affaires, c'est un argument qu'on invoque en général pour protéger une entreprise. Alors qu'en disent les sociétés d'autoroutes concernées? Comment est-ce qu'elles justifient, elles, une telle opacité?
Eh bien, elles ne la justifient pas. Elles vont botter en touche. C'est un peu circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas à elles de divulguer ce document. Pour Jean Mesqui, le président de l'association des sociétés d'autoroutes, ce n'est pas parce qu'on garde ce document secret qu'il faut croire au grand complot.
Nous, très franchement, on n'a rien à cacher dans ce document. On a dit à peu près tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant, le texte même, je pense que c'est plutôt des questions de principe que l'État veut respecter, mais je ne peux pas parler à sa place. Il a décidé de faire appel du jugement qui a été rendu. Donc maintenant, il faut attendre que la justice fasse son travail. Les sociétés d'autoroutes sont tout à fait transparentes sur le sujet, mais encore une fois, on n'a pas l'habitude en France de diffuser des documents qui sont des documents signés avec l'État.
Ouais, bon, autrement dit, on n'en saura pas plus.
Et non, et je précise que j'ai demandé une audience au ministre des Transports, Alain Vidalis, pour lui en parler, mais qu'il n'a pas souhaité s'exprimer.
Bien, alors on a vu comment les sociétés d'autoroutes défendent leurs intérêts, on a vu quelle opacité régit le dernier contrat passé avec l'État. Bon, maintenant, faut quand même être un peu positif, faut reconnaître aussi, Maxime Fayolle, que le gouvernement a un petit peu évolué sur la question récemment.
Et oui, il y a un an et demi, d'ailleurs pour la première fois depuis la privatisation de 2006, un gel du tarif des péages est décidé. Ça signifie tout simplement pas d'augmentation au 1er février 2015.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
Alors on peut penser que c'est une bonne opération pour le porte-monnaie des Français, mais seulement si on regarde à court terme, explique Laurent Hecquet.
Il y a eu gel parce qu'il y a eu effet de communication du ministre, Madame Ségolène Royal, à mon avis, qui s'est exprimée un peu rapidement, parce que ce gel, si les sociétés concessionnaires n'obtenaient pas leurs augmentations et qu'elles allaient devant le Conseil d'État, elles auraient eu gain de cause. Maintenant, il faut être très clair, ce gel de 2015 va être payé par les usagers puisqu'il sera reporté dans les augmentations de 2019 jusqu'à 2023. Donc, ce que l'on n'a pas payé avant, nous allons le payer après.
Non mais attendez Maxime, si ces contrats sont si déséquilibrés, il n'y a pas un moyen de changer les choses?
Et si c'est possible, en théorie depuis 2012, l'État peut dénoncer ces contrats, c'est-à-dire les racheter. C'était d'ailleurs la solution soumise au gouvernement dans le rapport de Jean-Paul Chanteguet en 2014.
Mais ça coûterait pas une fortune de racheter ces contrats pour l'État?
Eh bien si, forcément, quand les sociétés autoroutières sont assises sur 1,5 milliard de dividendes par an, on imagine bien qu'elles ne vont pas les lâcher aussi facilement. Il faudrait négocier avec ces sociétés. Mais Laurent Hecquet considère que la question du coût n'est pas un obstacle.
Ça peut coûter entre 28 et peut-être 30 ou 40 milliards d'euros. Mais attention, c'est une somme importante, mais que l'État investira sur le long terme. Il n'aura pas vraiment de problème pour trouver cet argent, surtout au coût où est l'argent sur les marchés financiers. Par contre, ce n'est pas un endettement public, parce que cet argent emprunté ne sera pas remboursé par l'impôt, mais par le péage. Grâce à cet emprunt, il récupérera la maîtrise des péages qui rentrera dans ses caisses et qui va donc lui permettre de rembourser cet emprunt sur du long terme.
Oui, si j'entends bien, ça pourrait être une opération quasiment blanche. Bon, de toute façon, tout ça, c'était une préconisation, mais il faut être très clair, le gouvernement ne l'a pas suivi.
Hein. Non, il n'a pas souhaité racheter ses contrats en 2014. Alors, l'option existe toujours, ceci dit, mais quand on voit le nouveau plan d'investissement de 1 milliard d'euros décidé le mois dernier, l'option rachat semble avoir du plomb dans l'air.
Oui, d'autant plus que des travaux, il va y en avoir à faire dans le futur et l'État n'a toujours pas l'intention de les prendre à sa charge.
Et oui, jugez plutôt. J'ai pu consulter les conclusions d'une commission qui prévoit que d'ici 2050, il faudra investir près de 18 milliards d'euros de travaux sur les autoroutes. Des travaux qui seront compensés comme les précédents, soit par une augmentation de la durée de ces concessions, soit par de nouvelles hausses de péage.
Bon, pour nous saper le moral, Maxime, vous êtes décidément très fort. Merci en tout cas Maxime Fayolle pour cette enquête. Une enquête que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr ainsi que sur la page Facebook de Secrets d'Info en texte et en vidéo. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Après les autoroutes, on va s'intéresser...